Jeff Caron. Jeff Caron.
Prof Caron, mes hommages.
Ça va bien?
Oui, un peu mêlé par rapport à Hormuz. Là. On débloque pas.
Ouais.
On en laisse passer un. On laisse pas passer les autres. On bombarde pas. Éclaire-nous. Tiens, comment tu vois la suite des choses et comment tu lis la stratégie de Washington?
C'est ce qu'on appelle en anglais un « Mexican standoff ». Donc, vous avez les Iraniens d'un côté, les Américains de l'autre. Ça se regarde, puis ça se demande lequel va dégainer en premier. Puis comme ça veut pas dégainer pour prendre le risque de se faire abattre, ben ça se garoche des cailloux à place. Fait que c'est ce qu'on voit depuis les deux dernières semaines, le fameux cessez-le-feu mis en place par Trump. Je pense que les Américains ont absolument aucun intérêt à continuer leur intervention dans la région, parce que s'ils devaient continuer leur intervention dans la région, ils seraient appelés à une escalade dont ils n'ont pas les moyens ni la volonté politique de faire. Puis ça, les Iraniens en profitent. Donc, ceux qui ont bombardé en fin de semaine des bases américaines dans la région, qui menacent encore une fois de bombarder, d'attaquer les navires qui passeraient par le détroit d'Hormuz. Donc, c'est une espèce de moment de latence où les Américains restent impliqués sans vraiment être impliqués et ils cherchent une espèce de sortie honorable. Puis je pense que les interventions de Trump au cours des derniers jours à l'effet qu'il serait peut-être prêt à attaquer Cuba ou faire tomber le régime communiste à Cuba, c'est comme une façon de détourner l'attention de ce qui s'est passé dans le détroit d'Hormuz puis en Iran là, depuis la fin février dernier.
Exet vient de sortir, il dit que US military effort in the Strait of Hormuz is defensive and temporary. Donc on répète la cassette, c'est temporaire, ça achève, on va sortir, on revient. Ça, c'est un message beaucoup adressé à la base et à MAGA. Là. Faites-vous-en pas, le gaz va baisser. On est là temporairement, c'est pas comme le Vietnam.
Non, c'est ça. Puis c'est comme si l'idée, c'était de faire en sorte que la population graduellement commence à oublier le conflit. Puis à partir du moment où ils vont se concentrer sur un autre enjeu, une autre question, là, les Américains vont pouvoir se permettre de se retirer définitivement, sans avoir à perdre la face. C'est un peu ma vision.
Okay. États-Unis, ma vision Chine, c'est quoi le score?
C'est 1-0 pour les États-Unis sur la Chine. Tu sais, moi, on me pose souvent la question à quoi va ressembler le monde de demain, parce que clairement, le monde des 30 dernières années est révolu. Donc, qu'est-ce qui va caractériser le nouveau monde? Une chose est sûre, tu sais, je vous l'ai déjà dit, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, le droit international qui a été mis en place en 1945 s'est révolu. À partir de maintenant, on va vivre dans un monde où les grandes puissances, les empires vont utiliser la force brute pour parvenir à leur fin. Puis la question, c'est quoi les fins de ces empires-là, de ces grandes puissances-là? Ça, c'est la question à $1 million, mais je vais vous donner mon opinion sur le sujet. Comme en tout temps, les pays ont besoin de ressources naturelles, puis c'est leur quête qui dicte leur politique étrangère, puis le 21e siècle ne va pas faire exception à cette règle-là. Puis de quelles ressources les empires ont besoin? Ben, de deux types, parce qu'on est à un moment de transition en matière de politique industrielle. Donc, le pétrole, ça reste un incontournable, malgré ce que peuvent en dire nos idiots du plateau. L'Agence internationale de l'énergie estime que la demande pour le pétrole va augmenter jusqu'à au moins 2050. Donc, il est normal de certains avoir des empires tenter de sécuriser leur approvisionnement. Puis les Américains ont une longueur d'avance sur le reste du monde, parce que d'une part, c'est le plus grand producteur mondial de pétrole, mais d'autre part, les États-Unis contrôlent directement ou indirectement des grands pays producteurs, le Venezuela, l'Irak, puis même le Canada. Puis ça, c'est pas le cas avec la Chine. Puis la Chine, l'économie chinoise, elle est très énergivore. Puis c'est la raison pour laquelle les Chinois passent en vitesse accélérée à l'énergie verte. Ce n'est pas pour des raisons environnementales, là, mais c'est simplement pour des raisons d'autosuffisance énergétique. Puis ensuite, l'économie est en transition vers l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est ça qui va être au cœur du développement économique de demain. Puis les pays qui ne vont pas opérer cette transition-là vont être voués à s'appauvrir. Ce qui signifie que les puissances vont aussi chercher à contrôler plus de ressources qui sont essentielles à cette transition-là, vers la quatrième révolution industrielle, donc plus précisément les terres rares. Puis oui, la Chine a un avantage là-dessus, parce qu'elle exploite...
De par son contrôle de plusieurs pays africains aussi.
aussi. Mais la Chine, juste le territoire chinois, exploite 70 % des terres rares, contre seulement un peu plus de 10 % pour les États-Unis. Par contre, les États-Unis ont la capacité, contrairement aux Chinois, de marcher tout en mâchant de la gomme. Donc, de continuer à utiliser massivement le pétrole, tout en développant lentement mais sûrement leur haute technologie, sans pour autant craindre d'être dépassé par la Chine. Pourquoi? Parce que même si la Chine possède les terres rares, c'est les États-Unis qui sont en avance en matière de développement des semi-conducteurs, des microprocesseurs. Puis les administrations Trump 1, Biden, puis Trump 2 ont mis en place des mécanismes pour priver la Chine de cette technologie-là. Ça la rend extrêmement vulnérable. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à voir s'effondrer l'Empire américain demain matin.
Contrairement à nos fake news?
Non, c'est ça. Puis autre aspect à considérer, où est-ce que les guerres de demain risquent d'avoir lieu? Donc, c'est non seulement dans les endroits...
C'est des guerres énergétiques.
C'est ça. Donc, il y a des endroits où il y a du pétrole, où il y a des terres rares, mais aussi à la périphérie de ces grands empires-là. Plus précisément, là où il y a des lieux de passage qui leur permettent de commercer, d'exporter puis d'importer des marchandises. Parce que, tu sais, le monde de papa est révolu, là. Le libre-échange global d'hier est terminé, puis on est en train d'assister au retour des protectionnismes partout dans le monde.
Ouais. Ça ne reviendra pas comme avant, là. Arrêtez ça. Ah, les démocrates vont repasser à Washington.
Non.
Ça va rester comme c'est là. Les tarifs vont être maintenus par... quelconque pour être élu un ami de la tendresse, Richard la tendresse. Là. Ils vont tenter de nous convaincre que c'est des amis, là, mais ça va être la même christie d'affaires, excepté l'ami que la personne ne sera pas jaune orange.
Oui, l'ami de Dick Tenderness. Puis on voit bien aussi se déployer en ce moment les stratégies des Américains puis des Chinois. Puis je dirais que les Américains sont beaucoup plus clairvoyants puis plus proactifs que les Chinois. Parce que, tu sais, les menaces chinoises qui pesaient sur le canal de Panama ont été éliminées. Puis, je vais vous parler de deux autres lieux de passage extrêmement stratégiques où les Chinois sont en difficulté. Premièrement, c'est le détroit de Malacca. Donc, c'est un étroit passage maritime entre la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, où transite 40 % du commerce mondial, principalement chinois. Donc, pour la Chine, c'est un couloir qui constitue pour eux une vulnérabilité, parce qu'on dit qu'entre 75 et 80 % des importations et des exportations chinoises le traversent. Puis en 2003, le président chinois de l'époque parlait du dilemme de Malacca pour décrire cette dépendance à ce lieu de passage-là. Or, qu'est-ce que les Américains cherchent à faire depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche? Ils cherchent à s'immiscer dans la région pour le contrôler. Fait que le mois dernier, Trump est en Indonésie pour signer un accord de coopération en matière de défense avec l'Indonésie pour avoir un certain contrôle sur l'espace aérien dans la région. Donc ça veut dire que hypothétiquement parlant, les Américains pourraient un jour être en mesure de prendre le contrôle de ce passage-là, puis hypothéquer capacité des Chinois d'importer puis d'exporter. Puis il y a deux autres lieux de passage entre la Chine et l'Europe, donc ce qu'on appelle...
Par la Russie, non?
Donc ce qu'on appelle le corridor
du Nord. Ou la Silk Road, la New Silk Road aussi qu'ils appellent, non?
C'est ça, oui, c'est ça, la route de la soie qui nous mène vers le corridor du Nord et le corridor du Centre. Donc, le corridor du Nord, ça passe par la Russie puis la Biélorussie. Donc, c'est impraticable à cause de la guerre en Ukraine. Donc, la seule alternative maintenant pour les Chinois, c'est le corridor du Centre qui relie la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale et le Caucase. Or, les Américains sont à la manœuvre. Les fils de Trump viennent d'investir 1,6 milliard il y a quelques jours dans une mine de tungstène au Kazakhstan. Puis depuis l'année dernière, les Américains sont présents dans le Caucase où ils construisent le TRIP. Ça, c'est l'acronyme pour le Trump Route for International Peace and Prosperity, qui relie l'Azerbaïdjan à la Turquie en passant par l'Arménie.
Hey, c'est brillant, donc, ça!
Fait que ça, en construisant cette route-là, Trump est en train de tuer deux oiseaux avec une seule balle.
La Russie non et la Chine.
Ouais, ben non seulement il coupe le commerce nord-sud entre la Russie et le Moyen-Orient, mais aussi, en étant présent dans la région, il va avoir la capacité de bloquer les exportations chinoises vers l'Europe. Donc, c'est ça qui se déploie
tranquillement. Et puis, ça va en Chine prochainement. Là, c'est pas annulé, son sommet, là.
À date, c'est pas annulé. Ça pourrait toujours être annulé.
Oui, mais annulé deux fois, c'est pas bon. Là. Il était annulé une fois. Là.
Mais c'est sûr. Mais ce qu'on voit en ce moment se déployer, c'est tranquillement, silencieusement, sous nos yeux, sans qu'on se concentre sur ça, parce qu'on se concentre plutôt sur les conflits chauds.
Les médias ne rapportent pas ça, même les grandes revues. Mais moi, je lis The Independent. Les grandes revues européennes, les grandes revues même de défense. Ce que tu nous soulignes ce matin, c'est pas raconté aussi clairement que ça, je trouve. T'en dis quoi?
Écoute, moi, je vis dans la région.
Oh, oui,
j'ai vécu 10 ans en Asie centrale.
Ouais,
donc, tous les débats en langue russe, que je suis quand même capable de comprendre, ça porte justement là-dessus.
Wow.
Puis depuis un an, je suis en Arménie et c'est le sujet d'actualité, le trip.
Wow.
Parce que pour que le trip puisse se réaliser, l'Arménie puis l'Azerbaïdjan vont devoir signer une paix durable après un conflit qui dure depuis plus de 35 ans. Et il y a des élections dans un mois ici en Arménie et c'est l'enjeu de la campagne électorale. Les Arméniens vont être appelés à faire un amendement constitutionnel pour retirer de leur constitution le fait que le territoire du Nagorno-Karabakh leur appartient. Donc, ils vont le céder définitivement à l'Azerbaïdjan. Et pour les Azéris, c'est la condition sine qua non pour qu'ils signent la paix avec l'Arménie. Et s'il y a une paix entre l'Azerbaïdjan puis l'Arménie, cette route-là va pouvoir être construite. Puis les Américains sont à la manœuvre. C'est eux qui vont investir pour construire la route. Des forces armées américaines dans la région. Donc ça, on voit ce qui est en train de se déployer comme ça.
Super.
Les Américains sont en train de coincer les Chinois.
Le grand jaune orange, la trompette, il sait pas mal ce qu'il fait, là.
C'est ce qu'il fait. Il y a une stratégie.
As-tu vu le film d'horreur concernant l'Arménie? Je te demande ça de même. C'est arrivé au cours des dernières heures. Macron qui a chanté au piano, t'as-tu pogné ça?
c'était
un film d'horreur. C'était un film d'horreur. Avec le gros drum qui embarque, qui est totalement off-sync, là, c'est le genre de cérémonie de mariage alcoolisée, là.
C'est ça. Ben, le gros drum, c'est le premier ministre, puis celui au piano, c'est le président arménien.
Non, il y a du monde alcoolisé dans la salle.
Oui. Mais tu vois, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que les Européens ont tenu leur sommet à Yerevan, en Arménie? Parce que, tu sais, tu peux dire...
C'est parce que t'es là.
Pourquoi? Oui, c'est ça, c'est parce que je suis là, puis ça m'a permis d'être invité aussi au souper arrosé avec du caviar et des huîtres.
Ben oui.
Mais si les Européens viennent à Yerevan, c'est parce qu'ils veulent que l'Arménie tombe dans le giron européen. Parce
qu'eux
aussi, ils veulent être en mesure de contrôler le lieu de passage stratégique qui se trouve dans le Caucase pour être en mesure de faire du commerce avec l'Europe. Fait, tu sais, tu tiens pas des sommets dans des villes X ou Y juste pour le fun, parce que ça te donnera envie d'aller...
Il n'y aura pas de sommet à Joliette?
Il n'y aura pas de sommet à Joliette. Puis tu sais, tu n'organises pas des sommets à Yerevan parce que tu as envie de faire un duo avec le premier ministre arménien au drum. Ils viennent dans ces régions-là parce qu'ils ont des intérêts stratégiques. Puis la question, c'est quel est l'intérêt stratégique de l'Europe pour l'Arménie? C'est le contrôle du corridor du milieu, le middle corridor, comme on appelle en anglais.
Donc, Arménie, à l'ouest, vous avez la Turquie. Au nord, la Géorgie. À l'est, l'Azerbaïdjan. Et au sud, vous avez l'Irak.
Oui, l'Iran, puis on est un pays limite.
Ma carte était trop grande. OK, parfait.
C'est vraiment
Et l'Irak à côté. Qui gère l'Irak en passant? On ne sait pas trop, là.
Bah, c'est les Américains, là, indirectement.
Si tu le veux.
Depuis 2003, ils ont quand même placé le président, le premier ministre en place là, depuis 2003.
Un gouvernement établi, entre autres, par Éric Duhaime, qui a travaillé là. Non, ça, c'est la Twist Radio canadienne.
mon Dieu. Donc Éric Duhaime, il a contribué à la mise en place...
À l'instauration d'un gouvernement servile de droite.
Islamiste. Ben oui. Donc, de facto, ça fait d'Éric Duhaime un personnage puant. Ben oui.
Voilà, t'as tout compris. Hey, merci beaucoup, Jean-François, c'était écœurant ce matin.
Bye.
Wow, ciao, bye. C'est le fun, hein?
Ben oui, c'est le fun. On a du plaisir.
Puis Eric, on l'a démasqué.
Démasqué total. C'est le directeur du parc à jeux, pareil comme la Scooby-Doo.